mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'émission Aléa. C'est Régis au micro et aujourd'hui je vais vous parler du Kriegsspiel. Alors le Kriegsspiel c'est quoi? C'est ce qu'on appelle plus communément le jeu de la guerre. Et non pas un jeu de guerre, mais le jeu de la guerre. The Game of War, le jeu qui a donné aujourd'hui, après une longue descendance, qu'on appelle les War Games ou les jeux de guerre, qui existent sous tous les formats. En jeu classique, on connaît les échecs, jeux de guerre par excellence où deux armées s'affrontent. Puis il y a des jeux de cartes comme Magic ou La Légende des Cinq Anneaux, des jeux de figurines comme Warhammer ou Crossmaster, des jeux vidéo comme Battlefield, Counter-Strike ou Warcraft. Bref, aujourd'hui, la réputation du wargame n'est plus à faire. Son succès est retentissant, son marché est extrêmement juteux pour les usines à jeux et il existe maintenant véritablement des milliers de jeux disponibles qui exploitent ce concept de la compétition armée entre deux adversaires. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de remonter à l'origine de cette histoire du jeu de la guerre. Alors, bien évidemment, l'origine première de notre envie de nous mesurer dans un jeu de guerre, vous vous en doutez, c'est la guerre elle-même. Ou même encore avant cela, quelque chose de plus profondément ancré dans nos entrailles, comme cette envie insatiable de nous mesurer aux autres, soit pour un pur désir égoïste de prendre ce qu'ils possèdent, ou soit pour l'envie d'exister et de briller de manière triomphante dans les yeux des autres. Et quoi de plus simple pour cela que de prouver notre valeur en pulvérisant nos adversaires et en les écrasant de notre victoire glorieuse. Comme le disait Huizinga, depuis la vie enfantine jusqu'aux activités suprêmes de la culture, le désir d'être loué ou honoré pour sa supériorité agit comme l'un des ressorts les plus puissants du perfectionnement individuel ou collectif. On veut toujours éprouver la satisfaction d'avoir bien fait, et ceci signifie avoir fait mieux qu'un autre. L'émulation, le concours, fournissent l'occasion de prouver cette supériorité. Et la fonction innée où l'homme réalise cette aspiration à la compétition, c'est le jeu. Donc autrement dit, avant que l'on joue à refaire la guerre, il faut voir que la guerre a déjà une forme de jeu, dans le sens où elle est codifiée et réglée. Et puis ce jeu réel de la guerre viendrait en quelque sorte répondre, selon Huizinga, à une pulsion profonde de tout être humain pour la compétition. Alors ça, c'est bien entendu un avis contestable, puisqu'on pourrait tout aussi bien penser que notre appétence pour la compétition n'est pas une caractéristique naturelle de l'être humain, mais bien un construit social. Et qu'on pourrait tout aussi bien renforcer d'autres caractères plus pacifistes et surtout plus utiles aujourd'hui, comme notre capacité à coopérer ensemble. Et c'est peut-être ce vers quoi tendent les jeux dits coopératifs, comme par exemple Pandémie ou Zombicide, mais on s'éloigne là de notre sujet. Revenons à notre Kriegsspiel, notre jeu de la guerre. D'abord, à quoi ressemble ce jeu? C'est un grand plateau avec à chaque côté deux armées qui possèdent des unités de valeur et de capacités différentes, par exemple l'infanterie ou la cavalerie. En fait, face à ce jeu, c'est comme si on avait une vue aérienne d'un champ de bataille. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les films ou dans les séries qui mettent en scène des conseils de guerre des armées sous des grandes tentes en toile, tous les généraux se retrouvent devant un immense plateau jonché de vallons et de figurines à l'allure guerrière qui sont censés représenter les forces en présence. Ces plans de bataille, qui servent à représenter le champ de bataille de la manière la plus fidèle possible pour élaborer une stratégie militaire, eh bien voilà exactement ce à quoi essaye de ressembler le jeu de la guerre. Il ajoute à cette représentation des armées par figurines quelques règles de déplacement, quelques modificateurs de puissance, des lignes de communication, et le tour est joué.
Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité.
Le premier jeu de la guerre naît au 19e siècle. Alors bien sûr, on pourrait compter les échecs ou encore le jeu de Go comme des jeux de guerre bien plus anciens, puisqu'il s'agit de deux armées qui s'affrontent sur un plateau. Mais dans ces deux cas, la modélisation du champ de bataille était épurée jusqu'à l'extrême. Nous sommes en présence de deux jeux où l'abstraction était poussée à bout. A l'inverse, le jeu de la guerre tente de rester le plus fidèle possible à la représentation du champ de bataille et aux stratégies mises en œuvre par les commandements militaires lors de la planification de leur offensive. Le jeu de la guerre apparaît donc pour la première fois en 1812, grâce au baron von Reichwitz, un administrateur civil prussien qui est invité par le roi de Prusse à construire un jeu pour ses deux fils. Von Reichwitz va rassembler plusieurs aspects des jeux de guerre alors disponibles, notamment ceux du jeu d'échecs, et il va leur donner un aspect beaucoup plus réaliste. Par exemple, le terrain devra être modelé de façon à ressembler à un véritable terrain, avec des collines, des forêts et des rivières, et non pas une succession de formes carrées qui s'enchaînent sur un plateau. Après sa présentation devant la cour, le jeu devient le passe-temps favori du roi, qui le pique donc à ses enfants. Autour du jeu, plusieurs assistants sont responsables de son bon déroulement, avec la mesure des distances, le calcul des temps de déplacement, les attaques surprises et les enveloppements. Et le jeu se termine toujours par un bilan de fin de partie au cours duquel le roi va donner une critique de l'évolution de la partie et de la disposition des deux camps. Un peu plus tard, en 1824, alors que le jeu de la guerre commence à être populaire à la cour du roi de Prusse, on apprend que le fils de von Reichwitz, un jeune officier d'artillerie, a continué de développer les idées de son père et qu'il a créé une nouvelle version du Kriegsspiel pour les officiers de la garnison de Berlin. L'échelle du jeu a alors été modifiée et passe au 1/8000, ce qui permet d'abord au jeu d'être beaucoup plus transportable et puis cela aussi permet de reproduire de plus nombreuses manœuvres militaires. Le jeu, présenté de nouveau à la cour royale, est ensuite recommandé à tout l'état-major prussien. Devant une démonstration d'une partie, le chef de l'état-major se serait même exclamé « Ce n'est pas un jeu, c'est un exercice de guerre et je vais le recommander à toute l'armée. » Et une copie du jeu sera ensuite distribuée à chaque régiment de l'armée. Tout au long du 19e siècle, le jeu va devenir de plus en plus populaire et s'étendre également aux cours et aux armées étrangères. Le Kriegsspiel devient même un exercice d'école à Berlin. Il est utilisé pour l'instruction des armées. Et des clubs de jeu, fréquentés par des généraux, vont commencer à voir le jour dans plusieurs villes en France, en Angleterre et aussi en Russie. Mais le jeu de la guerre ne restera jusqu'au 20e siècle qu'un jeu d'apprentissage réservé aux armées. Et on le caractérise d'ailleurs à l'époque comme un jeu scientifique. Seuls quelques clubs très privés vont, comme à Oxford, permettre à d'autres gens de découvrir et de jouer au jeu de la guerre. Mais il faudra attendre 1987 pour qu'une version grand public soit mise au goût du jour par Guy Debord, plus connu pour son engagement politique et son essai sur la société du spectacle. Le jeu de la guerre de Debord s'inspire de son ancêtre prussien et de la théorie de la guerre de Clausewitz. Il oppose deux adversaires sur un plateau de 500 cases et de 20 lignes sur 25 colonnes. Le plateau est divisé en deux territoires, nord et sud, sur chacun desquels se trouve une chaîne de montagnes, un col, deux arsenaux et trois forteresses. Le but du jeu est alors de détruire l'ennemi, soit en éliminant toutes ses unités combattantes, soit en prenant ses deux arsenaux. Une version de ce jeu est encore disponible aujourd'hui, avec un plateau aux formes épurées, accompagné de son livre de règles très littéraire, écrit par Guy Debord. Et vous y pencher vous permettra peut-être de tester des choses un peu différentes des jeux d'échecs classiques ou des wargames plus évolués et plus imagés des jeux vidéo actuels. Et je terminerai cette émission en vous suggérant d'aller voir aussi, si vous êtes intéressé par les vieux jeux, une autre version plus restreinte et moins connue du Kriegsspiel, une version inventée au début du XXe siècle par H.G. Wells, l'auteur de La Guerre des Mondes, une version qui s'appelle Little Wars, les petites guerres, et dont vous trouverez les règles du jeu en version libre sur le site gutenberg.org. C'est un jeu de la guerre conçu pour les adolescents. On trouve d'ailleurs sur la boîte du jeu de 1913 ce sous-titre croustillant, mais qui pourra peut-être faire un peu grincer des dents aujourd'hui. Little Wars est un jeu pour tous les garçons de 12 à 150 ans et pour ces filles plus intelligentes qui aimeraient les livres et les jeux de garçons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Aléa. Et d'ici là, bon jeu.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « On a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!